Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est pour moi un moment très, très agréable de pouvoir aussi voir toute l'Assemblée réunie. Nous étions hier une partie pour ce séminaire et j'apprécie beaucoup de pouvoir partager ce matin donc encore quelques pensées avec vous. Nous parlions hier de croissance. Et lorsqu'on parle de croissance, on pourrait parler de chiffres, on pourrait parler de croissance, de la croissance du protestantisme évangélique dans notre pays. C'est très encourageant de se pencher sur ces chiffres. Quand on pense par exemple qu'en 1950, il y avait environ 50 000 pratiquants réguliers du côté protestant évangélique. Et en 2018, on en compte 650 000. Dont 500 000 en France métropolitaine et grosso modo 150 000 dans les dom-tom. Idem pour le nombre d'églises structurées. En 1950, il y avait 249 églises locales structurées dans notre pays. Et aujourd'hui, on est à 2283. Et tous les 10 jours, il y a une église de plus. Donc quand on parle de croissance, on peut se réjouir de cette partie-là qui est visible. Mais ce que je vous propose de faire ce matin, c'est essayer de voir les choses plus en profondeur. Parce que fondamentalement, ce qui compte vraiment, c'est de voir comment le Seigneur lui-même veut faire croître son royaume au milieu de ce monde. Et c'est cela que je voudrais aborder ce matin avec un texte que nous allons lire dans un premier temps. Ensuite, je vais donner quelques explications sur la notion même de croissance et de royaume de Dieu, de notre place individuelle aussi dans ce travail que le Seigneur fait. Et dans la deuxième partie, nous reviendrons donc après plus en détail sur le texte. Le texte que je vous propose de méditer ce matin est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 13 à partir du verset 24 où Jésus donne une parabole très intéressante et par cette image en fait il explique ce qu'il veut faire pour sauver ce monde. Il, Jésus, leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ? » ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. » À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Les disciples n'étaient pas sûrs d'avoir bien compris, donc ils demandent à Jésus de leur donner l'explication et nous allons la lire tout de suite. À partir du verset 36. Alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » C'est-à-dire Jésus. « Le champ, c'est le monde. » La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile. Il est donc question ici de la volonté de Dieu, de la volonté de Jésus d'instaurer au milieu de ce monde un royaume et de faire croître ce royaume. Il faut peut-être redire, expliquer en quelques mots simples ce qu'est le royaume de Dieu. Les disciples plusieurs fois ont demandé à Jésus, mais où est ce royaume géographiquement et où est ce royaume au niveau temporel? Est-ce que le royaume de Dieu c'est pour maintenant ou est-ce pour l'avenir? Où est le royaume de Dieu? Et c'est une très bonne question. On pourrait résumer la réponse de Jésus assez simplement en disant « Le royaume de Dieu est partout là où Jésus règne. » Le royaume de Dieu est partout là où Jésus règne. C'est pour cela que ce n'est pas une affaire géographique. Et c'est pour ça aussi que le royaume de Dieu, comme Jésus l'explique aux disciples, est déjà présent au milieu de vous, leur dit-il. Et en même temps, le royaume de Dieu est une réalité future, parce que pour l'instant, nous sommes dans un monde mélangé, où Jésus fait croître son royaume au milieu de ce monde. Mais le diable profite d'un sursis qui lui est accordé pour semer la mauvaise graine, pour essayer de faire grandir aussi son royaume. D'ailleurs, le terme en grec ici pour mauvaise graine, c'est le terme « zizanie ». Le diable sème la zizanie dans ce monde, partout où il peut, même dans les familles et parfois même il essaye dans les églises. Donc nous sommes dans cette réalité où nous disons le royaume de Dieu est déjà là, partout où quelqu'un laisse régner le Seigneur, et en même temps c'est encore une perspective d'avenir. Un jour, et le texte nous le rappelle, il n'y aura plus que le royaume de Dieu. Tout ce qui s'oppose au royaume de Dieu et tous ceux qui s'opposent au royaume de Dieu seront éliminés et jetés en enfer, le diable en premier. C'est pour lui que l'enfer existe. Donc on a une perspective extraordinaire. C'est pour ça que les chrétiens dans ce monde sont des personnes remplies d'espérance. Non pas parce qu'ils auraient meilleur caractère que les autres ou parce qu'ils auraient une force intérieure qui leur serait propre, mais les chrétiens sont remplis d'espérance parce qu'ils savent qu'ils vont vers cette réalisation finale que Dieu promet, celle d'éliminer un jour le mal et il ne restera plus que le royaume de Dieu. J'ai lu il y a quelque temps sur Twitter une petite information comme quoi un jeune journaliste a eu le droit d'aller interviewer Billy Graham. Billy Graham est un évangéliste américain très, très réputé. Aujourd'hui, on ne travaille plus de la manière dont on le travaillait autrefois avec des grandes réunions, etc. Mais c'est un homme absolument remarquable. Et jusqu'aujourd'hui, un modèle de foi, même s'il est très diminué. Et justement, un jeune journaliste, ça devient très exceptionnel parce que Billy Graham a presque 100 ans, a eu le droit d'aller l'interviewer. Et il va vers Billy Graham et il dit, « Monsieur Graham, vous êtes là dans la dernière partie de votre vie, vous venez de perdre votre épouse il y a quelques années et... Voilà, vous êtes aussi dans une chaise roulante, etc. Et il dit à Billy Graham, qu'est-ce qui vous rend finalement si optimiste? parce qu'on sent que vous êtes rempli de joie, que vous êtes optimiste. On aurait peut-être pu dire confiant, mais il a dit optimiste. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Et il paraît que Billy Graham l'a regardé avec ses yeux bleus perçants. Il regarde et il dit « Jeune homme, j'ai lu la Bible jusqu'au bout et je puis vous assurer, ça finira bien. » C'est pour ça que les chrétiens sont optimistes ou confiants. Parce que la croissance du royaume de Dieu, ce n'est pas l'affaire des chrétiens, ce n'est pas l'affaire des églises, c'est d'abord l'affaire du chef. C'est Jésus qui fait croître son royaume et un jour ce royaume sera la seule réalité. Je ne suis pas en train de dire que du coup les chrétiens seraient simplement des spectateurs, parce que nous faisons partie de ce plan. Mais c'est Jésus le missionnaire en chef, c'est lui l'évangéliste en chef et ça change tout. C'est pour ça que dans ce monde fou, où tant de gens autour de nous, nos voisins, nos amis, nos collègues, manquent d'espérance, manquent parfois de perspective, avouée ou non, au moins dans certaines crises existentielles, il est tellement difficile sans le Seigneur. Le chrétien est bien placé pour dire « moi je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas plus malin que toi, mais j'ai rencontré quelqu'un qui remplit ma vie et mon cœur d'espérance ». Donc, le royaume de Dieu, il est partout là où nous laissons régner le Seigneur. Autrement dit, un chrétien authentique est une petite parcelle du royaume de Dieu. Et quand vous réunissez 200 ou 250 personnes, dont la plupart, je pense, sont engagées avec le Seigneur, c'est très bien qu'il y en a aussi ce matin qui viennent pour découvrir l'Évangile, l'Église est ouverte à tous, mais lorsque vous réunissez donc dans un bâtiment d'Église un grand nombre de chrétiens, vous avez déjà une belle parcelle du royaume de Dieu. Et en même temps, le royaume de Dieu est une réalité future. Donc pensons à cela tout à l'heure lorsqu'on regardera de plus près le texte. C'est le Seigneur lui-même qui veut faire croître la connaissance de sa personne, de son nom, de sa gloire et de sa grâce au milieu du monde. Et c'est comme ça qu'il fait avancer son royaume. Je voudrais maintenant, pendant quelques minutes, à l'aide d'un petit croquis, parce que c'est toujours plus explicite et on gagne du temps, parler d'un aspect un peu plus intime. Et je voudrais que chacun de vous se pose pendant ces quelques minutes cette question, mais moi alors, où est-ce que j'en suis dans cette affaire-là, par rapport au royaume de Dieu? Est-ce que j'en fais partie? J'en fais pas partie? Où est-ce que j'en suis? Et pour cela, je voudrais faire un petit dessin pour parler d'une opposition qu'on voit souvent dans la Bible entre, d'un côté, mon royaume, je vais expliquer dans un instant ce que j'entends par là, entre mon royaume et le royaume de Dieu, dont il était question à l'instant. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est mon royaume? Mon royaume, c'est ce que je commence à construire dès ma tendre enfance. Dès ma tendre enfance, chaque être, dès leur tendre enfance, tous les êtres humains commencent à construire leur royaume en faisant des choix, en ayant des valeurs, en ayant des projets. C'est tout à fait naturel. En tant qu'être humain, nous construisons notre royaume. Il suffit de voir dans une famille des enfants encore petits, ils n'ont pas tous les mêmes goûts, ils ne font pas tous les mêmes choix, ils n'ont pas tous les mêmes projets. C'est très très intéressant et pour les adultes souvent amusant d'entendre les enfants. Moi je suis plusieurs fois grand-père, quand je joue avec la petite dernière de nos petits-enfants qui s'appelle Capucine, elle construit son royaume, Capucine. Elle me demande toujours de jouer avec elle au petit train en bois. Elle aime beaucoup le petit train en bois. Et Capucine, elle me dit comment il faut mettre les rails, elle me dit où il faut mettre la locomotive et les wagons, etc. Elle construit son royaume et ça m'amuse beaucoup, ce signe de bonne santé mentale. Et en plus, elle a un caractère assez bien trempé, donc c'est très bien. Capucine construit son royaume. Chacun de nous construit son royaume. Nous avons nos valeurs, nous faisons nos choix, nous avons nos projets. Jusque-là, rien à redire. Sauf que nous construisons tout ça naturellement sans Dieu, ou alors il est un peu lointain, et donc nous faisons des choix, nous avons des valeurs, nous prenons des options qui ne sont pas toujours bonnes. Et même tout être humain honnête reconnaît que certains des choix étaient très mauvais. On aurait aimé, après coup, ne pas les avoir faits. Certaines de nos valeurs, elles ne sont pas très respectables et on ne voudrait pas que les autres les découvrent. Et certains projets sont franchement, mènent nulle part ou sont, voilà, parfois causent beaucoup de chagrin. Donc, nous construisons dans notre vie notre royaume avec de bonnes choses. L'être humain, parce qu'il est créature de Dieu, est capable de bonnes choses, mais nous construisons aussi beaucoup de choses dont nous avons honte ou que nous regrettons après coup. Donc, je mets ici, nous avons nos valeurs, nous faisons nos choix et nous avons nos projets. Ça, c'est mon royaume. De l'autre côté, Jésus parle de son royaume, et je mets ici uniquement une référence biblique, et je vais vous lire ce verset qui est très fort. Jésus dit à ses disciples, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Et là, il parle de la vie quotidienne et de nos besoins légitimes. Et tout cela, Dieu le donne en plus si nous faisons de son royaume la première place. Et voyez-vous, il y a donc cette réalité d'une tension. Est-ce que je construis mon royaume dont je suis mon propre petit roi, ou est-ce que je considère le royaume de Dieu comme ma priorité? Faisons maintenant intervenir les deux personnages principaux dans cette affaire. Donc je vais dessiner ici, d'abord il y a Jésus, et mon prénom c'est Daniel, voilà. Voyez-vous, trop de gens pensent que la foi chrétienne, c'est de dire, j'ai construit mon royaume, il y a du bon, il y a du mauvais, et parfois mon royaume me fait même souffrir. Donc Jésus, toi qui es rempli d'amour, à qui on peut tout dire, s'il te plaît, viens dans mon royaume. Bénis mes valeurs, bénis mes choix, bénis mes projets et ne les change pas trop. Parce que moi, j'ai déjà réfléchi. Moi, j'ai déjà mes valeurs, j'ai déjà mes choix, j'ai déjà mes projets. Certains pensent que c'est ça la foi chrétienne. Et parfois, nous ne sommes pas assez clairs lorsque nous parlons de l'évangile. C'est un peu comme l'évangile, c'est « tu ne seras jamais seul, le Seigneur t'aidera », etc. C'est vrai que nous pouvons tout dire au Seigneur. Il suffit de prier le Notre Père pour voir que vous avez deux demandes qui sont très proches. L'une, c'est « que ton royaume vienne » ou « que ton règne vienne » et l'autre, « donne-nous le pain quotidien de ce jour ». Donc, c'est vrai que nous pouvons tout dire, mais il ne faut pas réduire ce que le Seigneur veut pour nous. Son projet est beaucoup plus grand. Son projet, c'est dire, Daniel, et on vient de le rappeler avec la Sainte Cène, le Seigneur a payé pour toi, donc cette chose inouïe devient possible. Toi qui es indigne, tu as été rendu digne et tu peux maintenant faire partie du royaume de Dieu. La foi chrétienne, c'est cela. Ce n'est pas Jésus qui est une espèce de Jésus de confort et de soutien, une béquille pour les faibles. Alors nous sommes faibles et nous avons besoin de soutien, mais la foi c'est beaucoup plus que ça. C'est un changement radical. Quand vous lisez l'évangile, c'est un déplacement de vie, c'est un déplacement de priorité, c'est un déplacement de perspective. Que le Seigneur ait pitié de nous pour qu'on ne tombe pas dans une espèce de christianisme à bon marché où on pense que Jésus ne bouge pas trop nos valeurs, nos choix, nos projets, simplement on veut qu'il nous aide un peu. Ça, ce n'est pas du christianisme. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est un appel radical. C'est pour ça que je disais, c'est une affaire personnelle. Et j'invite chacun à réfléchir. Est-ce que je suis dans le royaume de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment très clairement fait ce choix-là? Vous êtes peut-être habitué de l'Église, vous êtes peut-être invité. Aujourd'hui, un ami vous a proposé de venir. C'est formidable que vous soyez là. Mais je vous pose cette question. Réfléchissez. Ce que Jésus veut pour nous, est-ce qu'il nous propose, et c'est inouï, et ça change totalement notre vie, et ça nous remplit de cette espérance inébranlable, c'est de dire, toi, Daniel, normalement tu es indigne, mais je te propose quelque chose d'extraordinaire. Tu peux devenir membre, ou tu peux devenir une parcelle du royaume de Dieu. Ne nous contentons pas d'une foi chrétienne superficielle où finalement ça ne change pas beaucoup, on garde notre royaume, on voudrait simplement que le Seigneur nous aide un petit peu. Donc je voulais parler de cela pour qu'on soit conscient de ce qui se passe quand Jésus parle du royaume. Et quand vous lisez les évangiles, vous voyez que c'est pour cela qu'il montre à la fois la perspective heureuse inouïe. Et en même temps, il dit aux disciples, ne regardez pas en arrière. C'est un vrai engagement. Et c'est ça la vie chrétienne. Il n'y a pas une espèce de vie chrétienne simplifiée, et puis après, pour les plus spirituels, un engagement de disciple. C'est plutôt le contraire. En étant un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit et qui suit le Seigneur et qui poursuit son œuvre, c'est là qu'on devient véritablement chrétien. Vous voyez ? C'est-à-dire, on est transformé en l'image du Christ. Venons-en maintenant au texte. Et je vais projeter ici donc la partie d'explication que Jésus donne. On a remarqué en lisant le texte que la description du monde que Jésus propose est extraordinairement pertinente et correspond à l'époque dans laquelle nous vivons. Cette espèce de mélange troublant. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, moi, quand je discute avec mes amis pas encore croyants, quand je discute avec des voisins qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils posent la même question. Et je les comprends, parce que moi aussi ça me trouble. Mais pourquoi Dieu permet-il tout cela? C'est troublant pour l'être humain d'être dans un monde mélangé. Et certains vont très vite à dire, mais si Dieu était vraiment un Dieu d'amour, s'il était vraiment puissant, il mettrait fin à toutes ces guerres et à tous ces désordres même de la nature, de la création. C'est vrai que c'est troublant. Et les disciples étaient troublés aussi. Et ils disent, mais Jésus, c'est pas normal ce qui se passe. Toi, tu as semé la bonne graine, et là, le matin, on se réveille, et on est dans un monde mélangé. Et Jésus leur explique, oui, ça c'est actuellement la situation. Un jour, ça cessera. Un jour, je mettrai fin à tout cela, dit Jésus. Je jugerai le monde, et le mal sera enlevé, et il ne restera que le royaume de Dieu. Mais il dit en attendant, oui, je sais, vous êtes dans un monde mélangé. Et c'est ça la place du chrétien, il est dans un monde mélangé. C'est compliqué, mais le Seigneur le sait. Lui-même a accepté de vivre dans un monde mélangé, où le diable, qui est en sursis, comme je disais, travaille encore au maximum. La bonne nouvelle, c'est qu'une mauvaise graine, ici, peut être transformée par la puissance du Saint-Esprit en bonne semence. Heureusement, sinon je ne serais pas là, et vous ne serez probablement pas là non plus, ça il faut le dire. Il n'est jamais trop tard d'entendre l'appel du Seigneur et dire « Seigneur », et même ce matin, vous dites « c'est exactement ce qui se passe dans mon cœur », cherchez peut-être tout de suite après le culte un chrétien expérimenté ou un responsable et priez ensemble, parce que c'est très important de ne pas laisser traîner ces choses-là. Si quelqu'un se dit « je ne suis pas du bon côté » ou « moi je me reconnais plutôt dans l'image de la mauvaise graine », surtout, occupez-vous de cela, parce que la grâce de Dieu, elle est là pour transformer une mauvaise graine en bonne semence. Mais donc ici, nous sommes dans ce monde mélangé. Le Seigneur le sait. Et il dit aussi à ses disciples, ne perdez pas trop de temps à vouloir arracher le mal, parce que vous risqueriez de piétiner aussi la bonne graine. Et c'est important aussi pour les chrétiens.